tout ça.
Okay. C'est à toi.
Tout le monde. Alors, ben, je suis content de voir que la salle s'est remplie vite pour quelque chose qui était relativement à dernière minute. Hein. On a appris dimanche qu'on avait un panel, donc je suis content que tout le monde soit là, mais je pense que le sujet est brûlant. On a des excellents experts. Donc, on va parler un peu des sujets de conférence de... Quoi? Ah oui, j'explique, attends. On va parler des sujets que Juliana t'en a parlé un petit peu, Éric t'en a parlé aussi dans ta conférence hier. J'aurais aimé avoir Marianne Carpentier qui va faire une conférence aussi sur le sujet demain. Mais donc, on va parler un peu du côté que le UX est un peu en péril, hein, il est challengé dans les organisations. Ça embauche encore beaucoup, mais côté contractuel, c'est plus difficile. Donc, il y a des gros challenges dans la crédibilité. Il y a des écoles qui enseignent le UX, il y a des écoles qui enseignent le design. On a de la difficulté à trouver des gens qui font les deux bien. Les organisations s'en sont aperçues un peu dans le temps aussi. Il y a un peu des abus ou des organisations qui ont fait comme « Ah, ils ne savent pas tout faire, donc on va leur faire des petits dessins en aval. » C'est un peu toutes ces choses-là qu'on va parler aujourd'hui. On fonctionne aussi parce que c'était un peu un upset de Apéro UX, qui pour ceux de Montréal connaissent peut-être un peu l'événement qu'on organise depuis maintenant 5 ans pour Apéro UX, puis il y a eu tout le monde UX avant, pendant pas loin de 15 ans. Puis dernièrement, grâce à une idée d'Éric, on a testé le modèle Fishball. Fait que le siège qui est au bout, il est pour quelqu'un dans la salle. Vous ne le savez pas encore, mais si vous avez une question, il n'y aura pas de période des questions à la fin. La question, c'est en temps réel, donc vous devez monter sur scène, vous prenez le micro, vous posez votre question, puis vous restez là jusqu'à temps que quelqu'un vienne vous déloger. Ça s'appelle le fishball. Mais c'est intéressant comme formule, on n'a jamais été déçus, on l'a fait à plusieurs reprises à Montréal. Puis c'est ça, ça donne input de connaissance des gens qui sont dans la salle. J'ai vu des têtes, il y a des gens que je ne pointerai pas, mais qui pourraient facilement monter sur scène. Donc, on va débuter le panel. Oui.
Au-delà, si vous avez une question, c'est bien, mais vous pouvez aussi participer à la discussion.
Oui.
Vous avez une perspective différente, vous voulez challenger les gens sur la scène, venez, ça nous fait plaisir. Le but, c'est d'avoir une discussion ouverte, puis de justement se re-questionner.
Parfait. Voilà. Donc, vous participez, puis c'est important que vous participiez, vous ne restez pas là assis jusqu'à temps que l'autre vienne. Non, vous faites partie du panel.
Jeff, peux-tu prendre une minute juste pour expliquer Apéro UX pour ceux qui ne sont pas familiers?
Vas-y,
bonne idée.
Ah, ben écoutez. Apéro UX, en fait, on est une organisation à but non lucratif. On est basé à Montréal. L'objectif, c'est de partager notre amour, donc pourquoi pas Québec un jour. Ce qu'on fait, c'est vraiment des événements pour la communauté. C'est gratuit. On organise des panels de discussion. On a fait une conférence aussi dernièrement. Là, on s'est affilié avec un événement aussi pour Radio-Canada en juin. Donc, l'idée, c'est de parler de différents sujets. Puis, on demande à la communauté, c'est quoi les sujets qui les intéressent. On a fait AI il y a 2 ans. On a fait aussi le UX écologique en général,
éco-conception.
On a fait énormément de différents, même l'anxiété chez les UX. Donc, tu sais, on fait vraiment une grande éventail de différents sujets. Puis, vous êtes plus qu'invités. On sait qu'il y a des gens de Québec qui sont venus, se sont déplacés pour certains événements. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés à Québec, d'en construire ici aussi de cette communauté, ça nous fait plaisir d'en parler. Puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, on est super content de pouvoir s'associer aujourd'hui avec Interface.
Bonne plug.
Voilà, petit bémol.
C'est excellent. Donc, ben, je vais vous partir sur, une des questions que je viens de soulever. De plus en plus dans les grandes... Comme je disais, ça staffe beaucoup dans les grandes organisations. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème à ce niveau-là. Mais les gens qu'on rencontre, à qui on parle, puis on en parle ici dans les corridors, sont de plus en plus en aval dans les projets. Aimeraient être en amont, mais sont relativement, si c'est des UX designers, ils sont en train de faire des dessins, du wireframe, du Figma, et ils nous disent tous, ben, moi j'aimerais ça être en amont, j'aimerais ça pouvoir aider ou changer les choses. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce phénomène-là s'est installé dans les grandes organisations?
Vas-y, Alain. Ben, je peux me lancer, en fait, puis c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai été très longtemps chez Bell. Et puis, il y a eu des hauts et des bas, en fait. Il y a eu des moments où le UX avait un rôle très central et on participait, on était un peu assis à cette table-là. Puisque quand je parle de la table, c'est la fameuse table des décideurs, les stakeholders. Puis, ça n'a pas toujours bien été. Puis, un de mes patrons à l'époque m'avait dit, Alain, le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu prends. Fait que moi, je suis parti avec ça, puis je me suis dit, OK, ça veut dire qu'il faut que je sois autoritaire, qu'il faut que je m'impose, qu'il faut que ça ait la pire erreur à faire, évidemment, on se comprend. Ouais. Puis j'ai réalisé avec le temps que, puis je fais beaucoup cette métaphore-là de sport d'équipe de hockey, puis j'ai comme réalisé qu'en fait, le UX, ça s'inscrit dans des choses plus larges. UX tout seul, C'est trop limitatif. C'est pas que dessiner des écrans. On a un coffre à outils qui résout des problèmes, qui résout des problèmes d'affaires. Mais on n'est pas les seuls à les résoudre. Il y a plein de gens qui participent à ça. Donc, je crois qu'il faut devenir, pour les choses que nous, on peut faire, de bons joueurs d'équipe. Puis le vrai leadership du UX, je pense qu'il s'inscrit là. Fait qu'il y a une question de mindset pour nous, puis il y a une question de mindset de l'équipe dans laquelle on se trouve.
C'est quelque chose que tu as compris, toi, Éric, parce que c'est ton modèle d'affaires. Toi et Jean-Sébastien Daigle, vous êtes là-dedans. Vous avez commencé un peu comme tout le monde dans le domaine un peu plus large du UX, de la stratégie numérique, dans le temps où tu étais chez Libéo. Mais là, And Friends, c'est ça, c'est business.
Ben, effectivement, je pense que, Alain, oui, le UX a effectivement un magnifique coffre à outils qui est plus nouveau là, quand même. Tu sais, ça fait une vingtaine d'années que Luke Robleski, qu'on a déjà eu à l'époque du WAC, en tout cas. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Sébastien, nous, on travaille sur le langage. Le langage qui permet de connecter une compréhension humaine à des objectifs d'affaires, à des réalités qui viennent du marketing, de l'administration, des trucs qui sont très, très chiffrés, dans le but de pouvoir démontrer le plus clairement possible l'impact soit d'une modification UX sur le reste d'une organisation, le produit, la marque, etc., ou encore, à l'inverse, de montrer l'impact sur le UX d'une décision d'affaires, même si elle est très, très loin dans l'écosystème de l'entreprise. Parce que tout est connecté, une entreprise, une organisation, c'est un écosystème. Et c'est peut-être un peu le piège dans lequel le UX est tombé dans peut-être une petite décennie, quand, tu en parlais tantôt, quand il y a eu cette espèce d'obsession du wireframe, cette obsession des petits dessins, qui c'est un outil, mais ce n'est pas la discipline.
Non, je te laisse terminer, Eric.
Bon, non, mais je terminerai pas. Si tu me parles là-dessus,
c'est à toi.
Je pense qu'il y a, en fait, il y a aussi un grand aspect dans la façon dont on est formé. On va encore trahir notre génération, là, mais on n'avait jamais eu de formation de UX, puis on n'a pas eu de formation de service design, puis on n'a pas eu de formation de ce genre de choses. Alors, d'où on vient? Il y en a plusieurs qui viennent du design industriel, il y en a qui viennent du design graphique, il y en a qui ont trouvé un intérêt dans le numérique, qui ont trouvé un intérêt dans cette ouverture vers l'écosystème de l'entreprise pour comprendre comment on peut améliorer les processus autant qu'un produit. Et donc, on s'est formé. Alors, il y en a eu certains qui ont dit non, moi, ce que j'aime, c'est ma zone de confort, c'est le dessin, c'est l'interface, c'est le graphisme. D'autres qui sont allés s'aventurer un petit peu plus dans ce monde-là d'ouverture vers qu'est-ce que ça implique. C'est pas uniquement un produit, c'est un écosystème. Puis, le fait qu'on on a essayé de s'autodidacte, on s'est formé, on a essayé de construire aussi notre identité, ça fait qu'il y a eu plusieurs clashs aussi. Puis que là, on a vu certaines entreprises, quand tu rentrais, disaient, mais moi, je suis tellement habituée qu'un UX, ça fasse ça, que là, tu m'arrives avec ça, puis tu viens d'où, tu fais quoi exactement, comme ça, tu parles au marketing, ben oui. Puis d'autres, au contraire, les autres vont être super déçus parce qu'un fait uniquement de l'interface. Donc, ça dépend beaucoup, je pense, de sur qui tu es tombé, à quel moment. Puis là, peu à peu, c'est là où on voit apparaître des écoles. Donc, il y a HEC qui fait une maîtrise, il y a l'ETS qui commence aussi un baccalauréat. Là, ils essaient de former. Alors, peut-être UX. Qu'il y aura plus de normalisation.
En design UX, en UX.
En UX.
Méthodologie, recherche. Tu as passé quelques temps en France dans les 2-3 dernières années, puis tu me disais que dans les grandes écoles de commerce, on commence à enseigner des formes d'ateliers, workshops, tout ça.
Et justement, il y a de l'espoir. si il y a des gens de l'Université Laval dans la salle ou d'autres universités, sachez que l'École de design de Nantes-Atlantique à Nantes réfléchissent beaucoup à avoir la fin du master en design UX qui va parler de design stratégique pour que les finissants du master puissent commencer à avoir ces discussions-là et à prendre une place beaucoup plus écosystémique dans la vision de l'organisation.
C'est officiel, hein?
Ben, écoutez, Stéphane Gouville, le directeur général, était ici au WAC l'an dernier. Ouais, il en parlait, donc ça s'en vient.
Julie Desilets, Radio-Canada, on a tous les conférenciers de cette semaine qui sont là, c'est bon?
Salut,
c'est génial. Tu as un point de vue là-dessus, sur le côté organisationnel, comment, comment ce serveur-là? Puis hier, je te l'ai dit en commentaire à la fin de ta conférence, est-ce que tu as rentré l'éco-conception pour justifier le UX à l'intérieur de l'organisation? Parce que l'éco-conception, peut-être que ça parle plus au C-level, peut-être qu'ils se disent « Ah, là! »
Oui, mais j'aimerais quand même revenir sur le sujet du UX comme tel, puis la responsabilité au niveau du design. Je l'ai vu dans les 12 dernières années, ça a vraiment beaucoup évolué, puis auparavant, on comptait juste sur le designer qui faisait des petits dessins. Puis, je pense qu'on est rendu ailleurs. Puis, la compétence UX, même dans la littératie, quand on lit, ça dépasse vraiment le spectre d'un designer. C'est vraiment, si la maturité d'une entreprise n'est pas prête à recevoir la compétence UX, bien, ça s'imprègne difficilement dans les grandes entreprises. Puis,
ça prend un défenseur, ça prend quelqu'un.
Absolument, c'est vraiment très difficile. En fait, le niveau de maturité UX d'une entreprise ou d'un produit bien, se mesure non seulement à la qualité d'un designer UX, mais vraiment à tout l'écosystème. Tu parlais d'écosystème tout à l'heure, puis ça m'interpelle beaucoup parce qu'on le voit que le designer a trouvé sa place et contrairement, tu parlais un peu en aval ou en amont, ouais. A réussi à, en fait, doit réussir à trouver sa place au travers de d'autres expertises UX, puis je pense à la recherche, évidemment. Mais la conception rédaction UX est importante. Ça m'amène au référencement. Les spécialistes en SEO vont nous aider à avoir des meilleures expériences aussi. Puis la stratégie aussi UX, donc UX veut dire expérience utilisateur. Ça ne veut pas dire vraiment juste la conception. Il y a comme beaucoup de facteurs qui viennent remplir ça. Puis, on a beau avoir les meilleures compétences UX, si le produit, l'organisation ne met pas ça en avant, donc n'est pas assez mature, bien, ça fait patate, souvent.
Et c'est malheureusement encore trop souvent le fait d'un défenseur dans l'organisation qui, quand il quitte, bien, il n'y en a plus, ou il y en a moins, ou c'est plus défendu. Je pense qu'Alain, tu avais ton micro.
C'est un peu une chose dont on parlait hier, puis tu as mis ce point-là, c'est l'idée de l'écosystème, puis le fait qu'il peut y avoir une culture, un fonctionnement d'entreprise, une gouvernance, je crois, c'est le mot que tu avais utilisé, qui fait qu'en réalité, il y a des organisations où, oui, ça va bien se passer, puis d'autres organisations où, en fait, mon Dieu, ça prend des plans de match différents, parce qu'il n'y a rien qui est pensé en fonction de ça, il n'y a rien qui est nécessairement tourné vers un client final, vers un utilisateur final. Et là, effectivement, peut-être que ça prend un profil un peu plus guerrier en termes de UX, mais est-ce que ça peut marcher? C'est une longue histoire.
Eric? J'ai une question pour vous, mais j'ai aussi, j'adresse un défi collectif au parterre, comme disait Cyrano. Si vous avez des réponses, je veux les entendre. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation classique, qu'est-ce qui fait que les gens qui dirigent ces organisations-là ne sont pas sensibles ou ne comprennent pas l'apport du UX?
La question qui tue?
Pas venu à ma conférence hier, je vais t'expliquer.
Vas-y, mais c'était
non,
un point important.
J'ai une part de réponse, mais j'attendrai de voir qui a d'autres types de réponses.
Viens déloger Julie. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, viens-t'en.
Bienvenue.
Salut, j'avais pas l'intention de venir jusqu'ici, mais bon.
Ton nom?
Oui, Louis. Enchanté. Donc, je suis UX comme tout le monde, je pense. Ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de PO ou de décideurs vont croire que notre expertise en tant que UX est aussi valable que leur opinion. Et c'est vraiment désagréable parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un métier qu'on fait, là. Puis c'est toute notre expertise est toujours basée sur des faits de la recherche, mais parfois aussi, bon, du feeling, là. Mais du feeling qui est basé sur des années et des années et des années de pratique. Donc,
et des méthodologies.
Et oui, exactement. Donc, le fait qu'ils pensent que leur opinion est aussi bonne fait qu'il faut s'imposer, comme tu disais tout à l'heure, et s'imposer, mais je pense qu'une bonne méthode, c'est amener de l'eau au moulin. Alors moi, c'est beaucoup ce que je fais comme méthode. C'est toi l'annexe. Donc, j'amène de l'eau au moulin pour les amener à changer leur réflexion. Mais ce qui est très désagréable dans tout ça, c'est que comme c'est un expert de l'ombre, ben, tu ne reçois généralement aucune récompense ou considération parce que tout ça se fait approprier par le PO qui t'a mis en place et qui accepte de t'écouter. Donc,
il te fait une faveur. Ça, c'est un autre problème. On n'est pas dans la chaîne de montage des projets numériques. On est optionnel, bien souvent et trop souvent. Hein.
Pour faire, puis je vais retirer mon mot, tu as vraiment raison. Diplomate est un meilleur mot. Oublier guerrier, c'est vraiment pas le bon mindset. Vous savez, quand je vous parlais de mes expériences au début, quand je pensais que j'avais compris c'est quoi leadership, je pensais que c'est guerrier, me suis cassé à gueule, ça n'a pas marché. Mais pour reprendre le point de Louis, effectivement, je pense qu'il y a tout le fait d'être capable d'amener une valeur dans le travail qui est fait, que cette valeur-là soit perçue, soit comprise. Et ça, c'est de la diplomatie, effectivement. Et c'est un travail aussi potentiellement de longue haleine, je dirais.
Ce que je trouve qui est important, bonjour, je m'appelle Julie Simard, collectif Diapason, enchantée tout le monde. Je trouve ça important dans notre métier d'être capable de démocratiser c'est quoi le UX, d'apporter la notion de qu'est-ce que ça fait réellement puis comment on peut l'implémenter dans l'équipe. Donc oui, c'est sûr qu'on a un rôle de leader, je pense, de UX, mais d'espérer avoir aussi des coéquipiers avec lesquels ils vont nous amener cette idée-là, puis ils vont aussi être des bons ambassadeurs. Je pense que c'est la chose qui est la plus difficile, puis c'est peut-être un long shot, mais quand on réussit à bien vendre le UX dans l'entreprise et que là, tout le monde comprend bien son rôle à travers ça, puis on est capable d'avoir des excellentes discussions, je pense que ça laisse place aux gens à apporter ces idées-là. Puis on est capable, nous, par notre fonction de facilitateur, à amener un bon environnement de discussion.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore positionné? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui sort de l'Université Laval ou d'École de Nantes ne pourra jamais prétendre à être VP UX dans une usine de boulons en Beauce, par exemple? J'exagère un peu, mais à peine.
Je viens de la Beauce, moi-là.
De ce que disait Juliana hier dans la conférence, en théorie, on doit faire comprendre qu'on pense autrement. Donc, d'être positionné VP design ou produit dans une usine de boulons, vous avez rigolé, mais pourquoi pas? Pourquoi ça n'arriverait pas à un moment donné? Parce que l'entrepreneur à la tête, il dit, lui, là, il va me sortir du moule de ce que je fais depuis des années, puis il va me mettre dans ma zone d'inconfort.
Oui, je vais pas revenir sur ta question, je vais revenir sur... je vais revenir sur ta question. Je vais faire une boucle, OK? Je pense qu'en tant que UX, on joue plusieurs rôles. On parlait du rôle de diplomate, on parle du rôle du médiateur, on parle du rôle de l'évangélisateur. Alors oui, la grosse partie de notre job à la fin de la journée, c'est ça. Et après, peut-être qu'on va faire un peu de recherche, on va faire un peu de conception. Parce que c'est nouveau. Alors peut-être pas en Europe, mais en Amérique du Nord, au Canada, c'est nouveau. Alors il faut pouvoir faire des compromis, il faut pouvoir évangéliser notre pratique, il faut pouvoir être diplomate pour le dire comment on va le faire, comment on va monter, comment on va communiquer nos choses. L'une des choses importantes aussi à ne pas oublier, c'est que dans ce rôle de médiateur, on a une position très intéressante. Okay? Alors, comme j'expliquais, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, je pense que c'est à toi.
On a beaucoup parlé.
Ouais, les derniers jours, j'ai beaucoup parlé. Alors, on a une chose qui est centrale, c'est l'humain. C'est ça à quoi on se rattache. Alors, quand on parle d'un quelqu'un en technologie, il va parler de sa technologie, si on se centre tout sur la technologie, la moitié des gens ne vont pas comprendre, vont essayer de suivre la vague, ils ne vont pas être capables. Ce n'est pas très intégrateur. Quand on parle d'une stratégie de vente avec des chiffres, ce n'est pas non plus très intégrateur. Il y a beaucoup de monde qui sont complètement perdus, ils ne sont pas capables de comprendre. Par contre, quand on parle de l'humain, ça résonne avec absolument tout le monde. Fait que nous, on est dans une position privilégiée pour dire... OK, je vais jouer le psychologue entre vous tous. Vous, marketing, là, c'est quoi vos besoins? C'est quoi, vous, les besoins d'affaires? Bien, c'est quoi vos besoins, vous, technologiques? À la fin de la journée, c'est pour qui qu'on le fait? C'est pourquoi? Bien, moi, je vais être capable de vous donner ces réponses-là, puis je vais pouvoir rattacher tous les morceaux ensemble. Fait que c'est un rôle qui est central.
S'ils veulent sortir de leur zone de confort, s'ils acceptent de se faire remettre en question.
Bien, sans sortir de la façon de réfléchir, c'est un rôle central qui nous permet de parler tous le même langage. Après, quand on est sur le point de dire, OK, parfait, on veut innover, on veut justement vraiment poser, faire la nouveauté, construire quelque chose de différent, il faut qu'on change nos manières de faire, ça ne fonctionne pas, c'est là que ça rend très inconfortable. Et c'est là qu'on dit, hey, on va vous proposer une expérimentation. Ouais, peut-être, comment, quoi, pourquoi? Mais c'est une autre partie de l'innovation. Mais le côté de médiateur, bien, je pense qu'il faut qu'on joue sur nos forces, il faut qu'on joue là-dessus pour pouvoir se positionner.
Présente-toi.
Bonjour.
Après, je sais pas si...
Moi, c'est Pierre-Luc Girard. Je ne suis pas UX, puis c'est un peu pourquoi je trouvais ça intéressant. Hein?
PO?
C'est PO?
C'est PO.
OK, OK. Mais je ne suis pas UX, je suis propriétaire de l'agence PLG de publicité, mais je vous écoute parler, puis vous parlez d'équipe, de coffre à outils, tout ça. Bon, là, moi, j'ai le rôle de... Je suis propriétaire d'une business, mais je travaille aussi avec du monde en UX à l'agence. Puis, ce que j'entends beaucoup, puis je ne sais plus qui a posé la question, ou tu sais, qui le disait, de comment... Pourquoi la direction embarque pas, là? C'est, un, ils connaissent pas ça. Ça, on s'entend là-dessus, là. T'sais? Mais à la base, là, la direction, là, elle vient de quel domaine? T'sais? C'est qui est propriétaire d'entreprise et qui vient du profil UX? Qui? Personne. Okay? Fait que leur coffre à outils, hein? Peut-être, il va, c'est sûr.
Le deux ici.
On en voit. Ouais, OK. Oui. De manière générale, qui sont pas nous ici, là, t'sais?
Ouais, ouais.
Je veux dire, la plupart du temps, là, c'est pas du monde du UX. Leur coffre à outils, là, c'est quoi les outils qu'ils vont prendre le plus souvent? Là? T'sais, l'administration, la finance, comptabilité, gestion, structure organisationnelle, name it. Là. Leur marteau, là, puis leur clé, c'est ça, puis ils vont taper fort avec. Là.
Et on parle pas leur langage.
Exact. Hein? Puis je suis 100% convaincu là-dessus. Là. Comme je dis, j'ai une équipe qui travaille là. Je suis tout à fait convaincu, mais on ne parle pas le langage, puis ils ne pensent pas que ça va être important, à quel point ça va faire une différence. Puis, tu parles de médiateur, vulgarisation, vous en parlez extrêmement bien et tout ça, mais au moment où on fait face, encore là, on parle pas le même langage, puis c'est là où ça tombe sur, c'est ça, c'est quoi le rôle principal d'une business? La rentabilité, payer tout le monde. Puis, si je ne connais pas ça, je vais me baser sur mon opinion. Mon opinion n'est pas bonne. Là, on commence à avoir un fossé, puis là, ça ne marche pas. Puis, ça devient un outil secondaire dans le coffre à outils. Hein? Fait que je pense que c'est beaucoup ça, puis ça va venir peut-être avec le temps. Là,
ben, c'est sûr qu'il y a le... Ça, c'est une discussion en fait qui existe depuis un bon bout de temps. Mais c'est vrai qu'on n'est pas rendu là encore, mais c'est... Enfin, ça dépend des groupes. Mais l'idée de maîtriser des indicateurs de performance, l'idée de maîtriser des KPI, l'idée de pouvoir travailler en fonction d'un objectif qui est commun pour l'entreprise. Puis je crois que du côté, tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un en UX, moi, qu'est-ce que je peux faire comme personne? Je pense qu'il y a cette partie-là que je dois, à laquelle je dois m'intéresser, que je dois devoir maîtriser, je dois devoir comprendre c'est quoi qui caractérise un projet réussi pour l'entreprise pour laquelle je l'ai fait. Puis là, je vais juste ouvrir une parenthèse rapide qui est peut-être un peu litigieuse des fois, mais ça m'avait beaucoup intéressé. Quelqu'un m'avait dit à un moment donné que c'était une mauvaise idée de dire qu'on était un peu comme les défenseurs ou les avocats des utilisateurs. Puis j'avais dit pourquoi. Puis la personne m'avait répondu bien, qu'en fait, la relation d'affaires, ça va vraiment dans les deux sens. Fait qu'il y a le dark pattern, par exemple, où tu deviens le seul ambassadeur de l'organisation sans aucune morale, mais il y a aussi une autre perspective où, en quelque part, bien, c'est vrai qu'il y a un équilibre à aller chercher. Alors, je pense que ça aussi fait partie d'un rapprochement dans les modèles mentaux de la business versus de la pratique.
Oui, ça sera rapide. J'ai beaucoup aimé votre intervention. En passant, Pierre-Luc, oui.
Jean-Luc.
Il y a de l'espoir et j'ai un autre défi pour vous en tant que UX ou intéressé sur la discipline et la faire grandir. J'ai entendu quelques récits assez récemment, notamment à l'Université Laval et notamment à l'Université de New York. Il y a des enseignants qui, dans des domaines comme la médecine ou le droit, vont utiliser, entre autres, la littérature pour enseigner l'empathie aux étudiants. Et je pense qu'il faut qu'on devienne des agents contaminateurs dans d'autres disciplines. J'ai une bonne amie qui vient de terminer son MBA à HEC. Ils n'ont pas parlé de UX, ils n'ont pas parlé de l'utilisateur du tout. Ils ont eu des cours en finance, ils ont eu évidemment des cours en marketing, des choses comme ça. Je pense qu'on a peut-être une mission collective, tout comme les exemples de New York et de l'Université Laval dans des disciplines qui ne sont pas forcément très centrées sur l'utilisateur, à trouver des manières de contaminer positivement ces disciplines-là. Puis je pense qu'il y a des stratégies.
Il n'appelle pas nécessairement UX, Marianne, là, qui va avoir une conférence demain. Il va en parler à Harvard Business School, enseigne des notions d'UX à fond la caisse. Il ne l'appelle pas UX, selon Marianne. Fait que ça, c'est là, peut-être pas officiellement des cours de UX, mais l'aspect humain des organisations commence à prendre de la place, des parcours utilisateurs, des tests utilisateurs, etc. Présente-toi, qui es-tu?
Vanessa,
Donc, je travaille à Tulus Santé. On est une pas pire grosse organisation. Puis, on a plusieurs produits, on a plusieurs équipes. Il y a beaucoup de choses en stylo, on ne se le cachera pas. Il y a du positif et du négatif là-dedans. Mais je vous dirais, en général, nous, le moyen qu'on a trouvé pour essayer de briser cette frontière-là, c'est de nous rendre plus visibles, parce qu'on a bien beau faire des maquettes, on a bien beau faire du visible, on reste un peu plus invisible quand même. Puis, tu sais, que ce soit juste de faire un post sur Slack, genre, on a comme un espèce de channel, genre, des bons coups, on tag des gens, il ne faut jamais hésiter, genre, de remercier un pair. C'est super important de faire ça. On a aussi d'autres systèmes, plus à l'interne, on remet des points bravo, fait qu'avec ça, on est capable d'avoir accès à des produits, mais grosso modo, il faut être plus visible, puis je trouve que dans l'environnement où je suis, en plus, c'est anglophone beaucoup. En tant que francophone, j'avais l'impression que j'avais aussi besoin de faire ça. Fait que maintenant, je ne me gêne plus de le faire, puis je vous dirais que ça aide beaucoup. Parce que les discussions qu'on devrait avoir sont plus facilitées. Et un autre moyen qu'on a trouvé, c'était de faire un hackathon. On l'a fait l'année passée. On avait des petites équipes. On a pu aller présenter ça au VP. C'était une belle expérience. On a pu se challenger. On a pu confronter le business. On a pu confronter les marketing, les sales, tout, avec notre projet de UX. Fait que, tu sais, c'est donnez-vous des outils. Je pense que les outils vont varier aussi en fonction de votre entreprise et de ce que vous faites. Mais moi, ce serait mon meilleur conseil. Trouvez vos outils et mettez-vous visible.
Puis une belle façon de faire aussi, c'est dans les communautés de pratique, c'est de faire des présentations de qu'est-ce que c'est des tests utilisateurs, à quoi ça sert, des parcours utilisateurs. Moi, je l'ai fait à la Ville de Montréal. On a fait une 35 conférences internes en 2 ans. C'est moi, j'étais un peu intense. Là. Mais ce n'était pas destiné au UX. Ce n'était pas une communauté de pratique interne. C'était pour les développeurs, pour les chargés de projet. Oui? Présente-toi. Bonjour.
Bonjour. Karine, en fait, moi, j'enseigne à la Faculté des sciences d'administration un cours en UX.
Ah!
Alors, je vous demande un peu de votre... Oui, c'est ça. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, la discussion, parce que les profils qu'on a, moi, je le sais avec mes étudiants, là, on a à peu près... on a plus de 120 étudiants par année du MBA qui suivent notre cours. Puis, la première constatation qu'on fait, c'est qu'ils connaissent absolument rien du UX. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le UX. Fait que nous, on a vraiment... je pense que ça passe par la sensibilisation. Là, c'était le point que je voulais ajouter. Quand vous dites pourquoi les exécutifs ne comprennent pas puis ne savent pas c'est quoi la place du UX, la sensibilisation, la formation. Donc, j'invite votre ami là, qui a fini son MBA à peut-être regarder des cours en UX. Moi, je pense que ça allait apporter des changements, ce cours-là.
Et quand ils en sortent de ça, est-ce qu'ils disent « Ah, mais en fait, j'en faisais depuis toujours. » Parce que je sais c'est quoi les humains, je ne sais pas leur parler, mais là, toi, tu les formalises, tu leur donnes des métaux en lien avec. Parce que j'ai souvent entendu celle-là. Moi, je fais du UX de toute façon, je parle aux utilisateurs. Non, mais on l'entend souvent, celle-là aussi. Là.
Ouais. En fait, moi, je ne viens pas du milieu UX là, non plus. Puis mon rôle dans ce cours-là…
Personne vient du monde UX de toute façon. Toi, tu étudies en d'autres choses. Oui, tu étudies en urbanisme. Toi, c'est quoi, ça. Communication? Toi, c'est quoi, philo?
Littérature.
Sommes-nous tous UX, bref. Ouais. Tout ça pour dire que l'idée, en fait, moi, dans mon cours, c'est vraiment de mettre en contact des gens qui sont des acteurs, des artisans du UX avec les gens du milieu des affaires pour qu'ils puissent prendre conscience vraiment de l'importance puis du rôle de cette discipline-là dans les organisations. Fait que ça, elle existe. Regardez dans vos universités, c'est sûr qu'il y en a des cours. Puis nous, on l'adapte à chaque année, ce cours-là. Fait que si jamais il y a des gens aussi qui veulent participer en tant qu'experts, nous, on fait des panels aussi dans le cours, à même le cours, parce que je pense que ça passe par les exemples puis par du concret, finalement, pour leur démontrer la plus-value du UX.
Tu sensibilises, c'est-à-dire que oui, tu apprends certaines méthodologies, oui, tu commences à comprendre comment faire des tests utilisateurs et tout, mais la formation UX, elle va au-delà. C'est comme je disais, on a des rôles différents. Est-ce que quelqu'un qui a fait tout son parcours en TI, puis là, il prend un cours en UX, il va être capable d'être un rôle de médiateur? Je ne suis pas certaine. Il y a beaucoup de choses.
Mais il va se former quand même.
Il va se sensibiliser.
Ça, c'est exact. Et c'est très important dans son rôle, surtout quand on parlait justement de vouloir mettre du UX un petit peu partout dans toutes les sphères de l'entreprise, mais ça va passer par ça.
Ça va donner ça.
Moi, c'est juste que je prêche pour ma paroisse parce que nous, notre cours, il est en affaires. Puis on n'est pas dans le but de former des designers UX ou des UX.
Ce qui va lui donner une position extrêmement privilégiée dans l'entreprise parce que là, il va pouvoir lui aussi savoir comment bien gérer ces gens en développement, comment bien gérer ces gens UX, parce qu'il va savoir à quoi s'attendre, comment bien intégrer les choses. Mais c'est une différence, parce que j'ai reçu énormément d'étudiants qui ont fait HEC et qui me disent « Maintenant, je vais me chercher une job en design de produits. » Ça va être compliqué.
Mais moi, j'ai la même réflexion par rapport aux programmes aussi qui, dans des écoles de design, vont justement former les étudiants sur le UX. C'est super, ils vont sortir design UX, ça va être vraiment pertinent, mais est-ce qu'ils ont le volet, l'autre pan finalement du UX dans les organisations? Je pense que les deux se valent là, comme discussion.
Absolument. Puis ça, c'est aussi un des shortcomings. Désolée, je ne connais pas le mot en français, là, mais un des limites de gens qui se forment uniquement en design. Moi, j'ai complété mes formations avec un MBA parce qu'il nous manquait le côté affaires. C'est-à-dire que là, on arrivait extrêmement motivés en disant « voici, on va changer le monde ». Puis il me disait « il y a une réalité d'affaires aussi qu'il faut que tu considères ». Donc, il faut compléter. Je pense qu'un se complète avec l'autre. Donc, il faut… Moi, je me prétends pas faire du marketing, mais je connais le milieu. Je me prétends pas faire dans les ventes, mais je connais le milieu, c'est-à-dire que je sais comment parler avec ces gens-là. Et c'est ça que ça m'a permis de faire cette maîtrise-là en MBA, tandis que quelqu'un qui fait des gestions puis qui fait une maîtrise en UX, ça lui permet d'avoir le vocabulaire. Puis
est-ce que l'important, c'est de s'identifier? T'sais? Je veux dire, après non, ça, je pense pas que c'est l'avenir non plus dans les organisations de dire « moi, je suis un X design UX, moi je suis le marketing, moi je suis… » Ça ne passera pas par ça. La multidisciplinarité va prendre le dessus, puis il va falloir qu'on ait ce discours-là aussi, d'éviter d'avoir des chambres d'écho finalement avec nos groupes respectifs. Là.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que les postes sont précis. Il faut savoir, puis c'est ce que je disais justement aux étudiants, j'ai comme « vends-toi, mais légèrement différemment. Mais présente ta plus-value parce que tu connais tout ça. » Sans nécessairement te positionner dans un truc méthode.
Sois curieux envers les autres disciplines dans l'organisation.
Tu vas être délogé, Karine.
Merci. C'est super intéressant. Puis, rapidement sur la formation, dans un autre contexte, je suis très impliqué dans UXP aussi. Puis on avait des grandes discussions avec des gens, notamment en Europe. Et puis on parlait beaucoup de la question des bootcamps, des formations qui coûtent la peau des fesses en 3 mois, qui vous disent vous allez sortir de là.
À Concordia, oui.
Ouais, puis vous allez être comme, oui, puis il y a beaucoup des entreprises privées qui font. Puis c'est pas une critique d'une formation ou d'une autre que je veux faire. Il y a sûrement des choses très bonnes là-dedans. Mais c'est en quelque part, j'ai un problème avec ce type de formation-là, parce qu'on forme des genres de techniciens qui vont maîtriser des méthodes, des outils un peu sans contexte, un peu, et dans le UX, dans le côté de la multidisciplinarité pardon, dont on parlait, il y a presque un côté de recherche sociale, il y a plusieurs expertises qui rentrent en ligne et qui sont requises. Alors, oui, après 3 mois, peut-être qu'on maîtrise Figma Inside Out, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on va être capable de faire du travail UX.
On est sensibilisé. Si on est un gestionnaire dans une grande organisation qui allons prendre ce cours-là, un peu comme Karine disait, on a quelqu'un qui est sensibilisé et qui va peut-être pouvoir faire des calls de dire « là, j'ai besoin de tests utilisateurs, là, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je vais aller chercher les experts correspondants à ça. »
Possible, mais je ne crois pas que ce type de formation-là porte vers ça. Ça veut vraiment
non, malheureusement, ils le vendent sous l'auspice de « on va te créer un design UX. »
Il ne faut pas confondre une discipline et un outil, hein. Figma, c'est juste un outil.
Ah oui, donc ça. Et passager, il est bon, il est super, config, machin, tout ça, tralala, mais Colin, on en a connu combien dans les 25 dernières années? On en a connu beaucoup, puis là, l'AI arrive. L'interface, c'est pas seulement l'interface visuelle, ça peut être une maison connectée, ça peut être plein de trucs. Puis Figma n'est pas une solution en soi pour ça. Là, ceux qui se précipitent sur Figma quand on leur demande une solution interactive, c'est peut-être pas ça.
C'est toi qui ramènes les wireframes, là. Hein? C'est toi qui ramènes les wireframes puis les écrans.
Parce que c'est ce qui est souvent ramené dans les formations. Vous allez apprendre Figma, vous allez être un designer UX. Oui, mais non. Présente-toi, qui es-tu?
Bonjour, je m'appelle Camille. Je travaille chez Desjardins en tant que rédactrice UX.
Tu veux que tu regardes ton badge pour savoir ton nom?
Ben oui. Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous font chez Desjardins?
Regarde, c'est pour savoir chez qui je travaille. J'en ai plusieurs dans ma tête. Mais... moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, on parle beaucoup au jeu, on parle beaucoup du UX tout seul. On dit beaucoup que le UX doit se défendre, doit parler à la direction pour pouvoir faire valoir son expertise. Ouais. Mais là, je vais prêcher pour ma paroisse. Puis je pense que dans les expertises de conception, qu'on soit UI, UX, rédacteur, spécialiste SEO, on en a nommé plusieurs, on pense toujours qu'on doit prêcher pour sa propre paroisse, alors que finalement... on devrait plutôt se serrer les coudes, puis aller discuter justement avec les PO, justement avec la direction, tous ensemble d'une même voix, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi notre valeur ajoutée à chacun et chacune. Puis je sais que dans les équipes de conception, on se marche souvent sur les pieds, et que justement, des fois, la rédaction UX va un petit peu marcher sur les pieds du UX, etc., que le UX va marcher sur les pieds de la recherche, mais il faut le voir plutôt comme une complémentarité, puis... tirer son épingle du jeu en tant qu'expert par rapport à l'autre expertise pour faire valoir justement notre propre
spécialité. J'ai entendu dans des grandes organisations, c'est souvent le designer UX va dire non, mais la writer UX, c'est souvent des femmes en UX writing qui va, mais elle ne peut pas faire, elle peut pas faire du UX, elle ne peut pas faire des parcours utilisateurs, mais elle a le titre UX. En théorie, on a tous la même méthodologie de base. Si on a assez d'années d'expérience et de compétences, on devrait pouvoir le faire. La finalité étant du writing, du design ou autre, mais...
Je dirais que, et puis il y a un point que tu sais qui est super important, en fait, c'est les, pardonnez l'anglicisme, mais c'est l'aspect des soft skills, en fait. Puis, très rapidement...
Le leadership?
Oui, le leadership, mais de soft skills, de capacité de travailler en équipe, de l'empathie, de la bienveillance, toutes ces choses-là. Puis les projets sur lesquels j'ai travaillé et qui ont le mieux été, puis des fois dans la très grande entreprise aussi, ben c'était des projets, c'est un peu galvaudé comme expression, mais l'ego était laissé au vestiaire. Puis il y a un facteur humain qui est bien important, c'est de se dire qu'on pense avoir la solution, qu'on pense comprendre. Tout seul, on ne l'a pas. Collectivement, on l'a. Fait qu'il faut être dans ce mindset-là, peu importe le métier. Puis c'est quand cette chimie-là est présente, que le jello pogne. Fait que, d'une certaine façon, j'ai le goût de dire, quand on engage, quand on cherche des joueurs d'équipe, je pense que les soft skills ont pratiquement préséance sur le savoir technique. Figma, ça s'apprend.
Il faut être sans égo.
Être une bonne personne, c'est plus dur.
On est au milieu de l'équation un peu. On est le médiateur qui entre les devs, les PO et tout ça, qui réussissent à faire parler un peu tout le monde aussi.
Mais tout le monde peut être un peu médiateur à sa façon.
Oui, tout à fait. Présente-toi, qui es-tu?
Bonjour tout le monde, je suis Isabelle. Et d'abord, je vais me disculper parce que je ne suis pas francophone. Alors, je vais essayer de me faire comprendre.
Ça va très bien.
Ça va bien.
Merci. moi, j'ai fait beaucoup d'évangélisation à travers les années. Et par contre, à chaque fois que je faisais une petite présentation avec des différentes équipes, ça allait super bien. Mais 400 jours après, tout le monde a oublié. La petite astuce qui a fonctionné le mieux pour moi, c'était de regarder aux différentes équipes, différentes disciplines, disons l'équipe du développement ou customer service, peu importe, regarder ces processus, regarder les tâches qu'ils font jour à jour et essayer de trouver une façon de l'améliorer. Nous avons tellement d'outils en tant que UX designer, UX researcher. Nous avons vraiment beaucoup d'outils pour partager qui peuvent être utilisés pour n'importe qui. Même si ça veut dire montrer comment utiliser Figma pour une petite chose qui va faire fonctionner beaucoup mieux l'équipe. Disons, récemment, j'ai fait ça pour l'équipe de Customer Service parce qu'ils devraient montrer des interfaces avec les couleurs de l'entreprise, avec qui c'était en train de faire du business. Et c'était une galère pour eux, parce qu'imaginez-vous, sans savoir rien de dessin, juste changer la couleur, un peu comme dessiner dessous. Vous vous souvenez de Paint? Quelque chose comme ça. Alors, ça m'a pris 45 minutes avec l'équipe pour montrer comment avec Figma ils pouvaient juste changer ici et là et ça allait faire les processus beaucoup plus vite. Tout ça pour dire que maintenant, à chaque fois qu'ils ont un défi difficile, ils vont me chercher en tant que UX parce qu'ils savent déjà que moi je peux leur aider avec ce soit mes outils, mes idées, mes façon différente de penser en tant qu'une autre discipline. Ça a très bien fonctionné pour moi.
Tu as d'ailleurs donné un exemple hier, merci, tu as d'ailleurs donné un exemple hier, Juliana, dans ta conférence sur ça, tu t'amènes les décideurs à se prononcer sur la marque, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent avoir, etc.
Oui,
pour après ça, partir en recherche et les remettre devant ce fait-là.
Si la technique d'Assumption Slam. Oui, mais c'est une technique connue qui s'appelle un peu l'idéation des préconceptions. Puis c'était justement de confronter, on parle d'ego, là, de confronter ce qu'ils pensent savoir ou leur propre vérité sur les utilisateurs, puis de leur demander de le mettre ça dans une échelle de certitude. À quel point vous êtes certain de savoir, vous êtes sûr de savoir? Puis après, qu'est-ce que vous êtes un peu moins sûr? quand ils vont rentrer dans les tests d'utilisateurs, puis qu'ils l'observent en écoute active, c'est pas moi qui leur dis « Hey, vous aviez tort », c'est leur propre utilisateur qui leur disent « Non, j'aime pas ça ». Ben, tu sais, ça remet un peu en question leur connaissance. Puis c'est sûr que lorsqu'on fait de la restitution, puis on leur dit « Hey, votre échelle de certitude, puis ce qu'on vient d'apprendre, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qui a été confirmé? Qu'est-ce que ça n'a pas été? » Puis bien sûr, il faut qu'on utilise notre côté diplomatique. Fait que tu leur dis pas « Ha! » Non, tu leur dis « Hey! » Tu sais, les choses évoluent très vite. Alors, ça se peut que c'était un besoin d'il y a 2 ans, mais là, le besoin a changé, leur façon de faire a changé, etc.
La diplomatie, encore.
C'est une excellente technique parce que, encore là, c'est très difficile de, se le faire dire par une nouvelle personne qui vient de rentrer dans ton équipe, mais quand ça vient de la voix de leur propre utilisateur, qu'ils étaient là, puis ils l'ont vu, ils ne peuvent pas dire, ben non, n'importe quoi, cet utilisateur, tu en as fait 3, 4, 5, 6, 7. Ben, à un moment donné, il faut que tu dises, ben, ça doit être une évidence. Donc, c'est une des techniques qu'on utilise pour convaincre, pour les impliquer dans le processus, puis qu'ils réalisent par eux-mêmes. Parce que quand ils sont convaincus une fois, ben, tu auras leur saut d'approbation pour toutes les autres choses que tu essayes de construire.
Qui êtes-vous, madame? Présentez-vous.
Salut, comment tu
vas? Salut. Donc, Amanda, je suis responsable de l'agence Atecna à Montréal. J'ai un background où je suis un peu dans l'entre-deux des deux mondes parce que j'étais PO dans mon ancienne vie et puis il y a une couple d'années, un peu plus de 10 ans, j'ai quitté ça pour basculer dans le switch de la chaise de l'UX. Et donc, ça m'a amené à... En fait, on parle beaucoup depuis tantôt de sensibilisation, de formation, puis bah, c'est sûr, on est tous passés par là. D'ailleurs, on a eu une collaboration mutuelle avec Juliana là-dessus. Donc, ce que je me suis aperçue personnellement, c'est qu'on a tous eu, je pense, dans nos parcours de « Ok, il faut que tu arrives, il faut que tu sois responsable du design thinking, il faut que tu crées des squads, il faut que tu évangélises, il faut que tu ailles chercher des execs, il faut que tu ailles des buy-in, etc. » Donc, oui, ça prend déjà de s'approprier finalement les résultats d'affaires. Tu parlais de KPI tout à l'heure, Alain. Donc ça prend ça, ça prend de finalement se mettre à la place de ces gens-là, de quoi vous avez besoin, c'est quoi vos enjeux, etc. D'aller voir du côté du UX, bien sûr, de s'accorder, voir s'il y a des gaps. Et ce que je m'aperçois souvent, c'est qu'au-delà des grandes formations ou des grands posters de Blueprint Service ou de Post-it, etc., qu'on avait pu communiquer souvent à l'époque, finalement, aujourd'hui, on revient de ça, puis j'ai l'impression que de faire des formations, de passer des journées d'évangélisation, des workshops de c'est quoi le UX, etc., c'est pas tant ça, finalement, qui a parlé aux gens et aux décideurs, entre guillemets. C'est plutôt de prendre un projet concret, de se demander bah, où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce que le bas blesse, où est-ce que c'est quoi la stratégie d'affaires, votre plan à 3 ans, 5 ans, etc. Et peut-être trouver, ok, là on va travailler ensemble, puis on va apporter des résultats ensemble, on va travailler ensemble main dans la main, on va ramener les parties prenantes aussi, tu parlais je pense de ramener de la synergie aussi dans les parties prenantes, puis ça c'est notre rôle aussi. Et donc ça en fait d'amener ce petit truc-là, cette petite valeur, bah souvent c'est ça qui fait la différence, parce qu'une fois qu'on a eu un décideur, ce décideur va devenir l'ambassadeur, puis il va collaborer, etc. Il sera beaucoup plus facile de savoir le UX.
Ça prend quelqu'un en très haut qui dit on va le faire le projet. On va
ou d'aller chercher ses ambassadeurs petit à petit, dépendamment
de ceux qui cherchent un job, aller dans des endroits où il y a des gens comme ça qui défendent le UX. On conclut. Qui veut conclure? Non, vas-y. Vas-y avec ce que tu vas dire, mais faisons une conclusion.
Alors, moi, je vais continuer à
convaincre. No pressure.
C'est dur d'arrêter. Vas-y. À toi d'honneur.
Éric.
Personnellement, on a beaucoup parlé de diplomatie, de l'aspect médiateur, du côté écosystème d'une organisation. Si c'est des keywords et non des buzzwords, si c'est des keywords qui vous parlent, je vous conseille d'aller voir du côté du design d'entreprise, ce qu'on appelle en anglais parce que beaucoup, c'est très européen, donc c'est beaucoup en anglais, le enterprise design. C'est exactement la discipline qui veut placer ce genre de rôle dans les organisations. De diplomates, de médiateurs, de points centraux. Je pense que c'est essentiel dans les environnements complexes. Et c'est en émergence en ce moment.
Et c'est peut-être l'endroit où il y a plus de potentiel d'emploi que d'être dans l'outil ou dans la technicité du métier du UX.
Puis je vais conclure avec Éric. Je vais juste finaliser que finalement, une des grandes choses qui sont venues souvent, c'est oui, l'évangélisation, mais l'évangélisation avec des cas concrets. Avec des cas où tu peux vraiment le prouver, le démontrer, impliquer les gens au sein de ces cas-là, c'est là que ça va être gagnant, puis ça va être bénéfique. En parler, vous pouvez citer tous les articles Gartner que vous voulez, là. Si vous l'avez prouvé, ça va être extrêmement difficile.
Puis vraiment, la finalité, c'est si vous faites rentrer de l'argent dans l'entreprise, votre patron va vous adorer.
Ouais. Ben, merci tout le monde d'être venu, c'était super cool.